Compose, hors série numéro 5.
Je suis convaincue que tu choisis ce que tu fais de ta vie. Et c'est quelque chose que je dis régulièrement à mes enfants, c'est soit tu subis les choses, soit tu y fais face et tu t'armes pour y faire face et tu choisis en fait l'impact que ça a sur toi, mm-hmm. tu vois. Et donc c'est vraiment une philosophie de vie. Et moi je suis quelqu'un de profondément positif, tu vois. Et donc je ne verrai jamais le verre à moitié vide, je le verrai à moitié plein. Et c'est peut-être une phrase un peu bateau, mais c'est vraiment quelque chose qui est ouais. hyper ancré chez moi et qui est hyper important parce que je veux dire des difficultés on en rencontre tous. Toutes et toutes, et à toi, bah, soit à les affronter et dire, bah, voilà, ça fait partie de la vie et c'est peut-être pas un hasard que les choses arrivent comme ça et voilà, je dois me relever, j'en prends l'enseignement, mais ou bien tu te laisses abattre et puis tu t'endosses tout et t'as un gros fardeau sur le dos, quoi, tu vois.
Ouais.
Et donc, vraiment, c'est pas pour prêcher la bonne parole ou voilà, c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois profondément et je pense qu'en plus, au plus tu es positif, au plus les choses qui t'arrivent sont positives.
Pour ce cinquième hors-série de Compose, où je reçois celles et ceux qui aident les autres à oser créer, mon invitée est Marie Buron. Marie, c'est la fondatrice de Womanly, une communauté d'entrepreneuses. Ensemble, on a parlé de son premier job qui a été un cauchemar, du fait qu'elle préfère parler d'expérience plutôt que d'échec, de zone de confort, du statut d'indépendante qu'elle prend lorsqu'une opportunité se présente, de l'entrepreneuriat comme mentalité, du soutien de son mari, du genre dans le milieu professionnel, de la communauté Womanly, de son passé de sportive de haut niveau, de ses 4 enfants. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Marie d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
Merci Julie de m'y inviter.
Tu es donc l'invité de mon cinquième hors-série. Donc là, j'invite des gens qui aident les autres à oser créer parce que tu es la fondatrice de Womanly. J'aimerais bien qu'on commence par ça en fait. Tu peux m'expliquer un peu ce que c'est Womanly ?
Alors, Womanly, c'est devenu... Au départ, ça se déclinait vraiment comme un espace de coworking dédié à l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que Womanly est plus un outil qui est toujours au service de l'entrepreneuriat féminin, mais qui est composé d'une communauté d'entrepreneurs qui va en fait évoluer au sein d'espaces de coworking existants et qui va créer vraiment des synergies, de la collaboration, du partage entre elles. Et donc, c'est un vivier d'expertes entrepreneurs extraordinaires.
Trop bien. On y reviendra plus tard. Mais du coup, je voudrais un peu qu'on parle du cheminement. Comment tu es arrivé à ça? Tu as fait des études de communication et d'événementiel, c'est ça?
J'ai fait un master en communication, puis j'ai fait un master en gestion, et puis j'ai aussi eu la chance de faire une formation au MIT à Boston en entrepreneuriat. Et donc, forte de tout ça, je suis devenue entrepreneur après avoir travaillé comme salarié pendant 16 ans.
Oui, voilà. Qu'est-ce que tu faisais d'abord en salarié? Quand tu es sortie des études, quelle était ton envie?
Alors, mon envie, honnêtement, j'ai toujours adoré l'événementiel. Et donc, j'avais envie de travailler dans l'événementiel. Et j'ai très rapidement, je pense que... Bah, donc, j'avais remis mon mémoire en juin. Et en août, fin août, je trouvais mon premier emploi dans une société, dans le Brabant Wallon, qui faisait une société privée qui faisait de l'événementiel.
Mmh. Et comment ça s'est passé?
Cette première expérience a été un cauchemar. Un cauchemar, vraiment. J'ai travaillé 6 mois pour eux. Je ne vais pas citer le nom, et pourtant ça me brûle les lèvres tellement mon expérience a été mauvaise et que je la déconseille vraiment à tout le monde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, c'était sur papier une super belle société. Et je pense que c'est toujours une belle société qui a des beaux clients. Mais l'ambiance au sein de celle-ci, c'était juste horrible. Les gens se tiraient dans les pattes. Et vraiment, après quelques semaines en entreprise, je me suis rendu compte que le management était vraiment, vraiment, vraiment exécrable. Mm-hmm. Pas du tout orienté humain. Et donc, je me suis fait licencier au bout de 6 mois. Et ça a été un soulagement énorme, ah oui. Parce qu'en fait, ils engageaient, et ils le font encore aujourd'hui, ils engagent par période de 6 mois en CDI pour pouvoir gagner en subside. Non, en CDI.
Ah, en CDI.
Oui. Et donc, en fait, quand tu sors des études, que tu engages en CDI, je ne sais pas si c'est encore actuellement comme ça que ça se passe, mais en tout cas, à l'époque, c'était les sociétés qui engageaient donc en premier emploi en CDI avaient des subsides. Mmh. Et donc... en tout cas avec des aides financières et donc c'était comme ça qu'ils avançaient en fait, ils engageaient au projet mais en CDI puis ils licenciaient une fois que le projet était terminé. Et en fait moi au cours de ces 6 mois je me suis sentie vraiment pas du tout à ma place et en même temps en me disant ben voilà c'est une école de vie, ça fait partie de l'expérience, les projets, les clients sont beaux et donc je reste là, surtout qu'en plus à ça s'ajoutait le fait que j'avais pas mal de copains de l'INIF qui étaient à la recherche d'emploi. Mm-hmm. Et donc je me disais mais non, en tant que enfin, moi, j'ai un emploi. Ce serait de la folie d'aller quitter cet emploi et démissionner. Et donc j'ai tenu bon. Et puis finalement, ils m'ont licencié, ce qui était une très, très bonne chose, qui a été un soulagement énorme, énorme.
Et ça t'a un peu dégoûté du milieu du travail déjà, d'avoir cette première expérience qui était vraiment cauchemardesque ?
Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai été licenciée, j'ai directement été réengagée par des partenaires qui travaillait pour cette entreprise. Et donc, directement, avec qui j'avais eu l'occasion de travailler au cours de l'événement dans lequel, que je construisais là-bas et que je mettais en place. Et donc, directement, j'ai eu un autre emploi. Je suis même pas passée par le chômage. Et donc non, j'ai pas été du tout dégoûtée. Par contre, j'ai mis du temps à digérer cette expérience. Mmh. Parce que ça a vraiment été confronté des choses très dures du monde du travail. Vraiment, c'était vraiment, vraiment pas une chic expérience au point de vue relationnel et humain. Donc voilà. Mais ça m'a pas dégoûté. Je crois que c'était une belle première entrée en matière et que j'ai découvert rapidement, la dark face, le dark side du monde du travail.
Et comment ça se passe du coup avec ce deuxième job? Comment t'évolues dans ton secteur?
Alors, c'est très comique, mais j'ai envie de juste te dire, je sais pas si t'as déjà entendu ou si les gens qui nous écoutent ont déjà regardé le discours de Steve Jobs lorsqu'il remet à la remise des diplômes de Stanford où il parle de connecting the dots.
Ouais, ouais.
Mais voilà. En fait, c'est marrant parce qu'après, donc, ce qui en est suivi, c'est plein de petites, donc j'ai fait après deux autres boîtes, toujours dans le privé. Et en fait, il y a plein de petites choses qui se sont semées au cours de ces années de salarié. Et puis après, je suis partie dans le public, mais on en parlera peut-être après. Mais en tout cas, au cours de ces années, avec plein de rencontres, etc. Et en fait, il y a des choses qui se sont passées dans ma deuxième expérience de salarié qui ont un point commun avec la suite dans mon monde entrepreneurial maintenant.
Oh,
tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et donc en fait les choses se sont, en fait voilà, les opportunités se sont ouvertes, pour répondre à ta question, les opportunités se sont ouvertes à moi et les choses se sont passées comme elles se devaient avec pas mal de découvertes. Donc j'ai été après dans une autre société donc directement qui travaillait dans l'audiovisuel. À l'époque, c'était encore l'époque des CD-ROM et donc on faisait des films d'entreprise, etc. pour sur CD-ROM. Pour médias de communication. Puis ensuite, je me suis retrouvée, plus rien à voir, dans une autre société privée qui travaillait, et là toujours en tant que responsable communication et marketing, pour une société qui faisait qui mettait en place des technologies pour augmenter la productivité et l'efficacité dans les chaînes de production alimentaire. Et donc, un tout autre secteur, mais vraiment super intéressant parce que j'ai eu l'opportunité de visiter des ateliers de production en France sur tout ce qui est président, enfin le fromage, etc. Et donc, c'était hyper intéressant. Et puis finalement, après, je me suis retrouvée dans le public, voilà.
Et t'as l'impression que toutes ces expériences comme ça, elles t'ont vraiment, elles t'ont servi quoi. Pour la suite, t'en parlais déjà un peu maintenant, mais tout ça, ça t'a permis d'acquérir des compétences très différentes aussi et de faire celles que tu as aujourd'hui.
Bien sûr, mais je pense que ça c'est la vie, c'est le parcours de vie de chacun. C'est que tu pousses des portes et il y en a certaines qui s'ouvrent, d'autres qui restent fermées. Tu te dis mais pourquoi celle-là elle reste fermée, pourquoi celle-là elle s'ouvre. Et puis après, en regardant après, tu te dis c'est bien qu'elle soit restée fermée celle-là, tu vois, et que celle-là se soit ouverte.
Ouais, ouais.
Et en fait, c'est ça qui fait qui tu es aujourd'hui. C'est toutes ces expériences de vie, tous ces gens que tu rencontres, que ce soit des bonnes expériences ou des moins bonnes expériences. J'aime bien parler de non pas d'échecs mais plutôt d'expériences, même si elles sont sont parfois difficiles à encaisser. Mais donc oui, je pense que tous ces choix, toutes ces choses que nous faisons au quotidien font qui nous sommes aujourd'hui. Mmh. Ça, clairement.
Mais comment t'as réussi, voilà, c'était ta première expérience professionnelle, elle était négative. Comment t'as réussi à retirer quand même du positif, quoi, avoir cette mentalité de te dire, en fait, les clients sont chouettes, ce que j'apprends, c'est chouette, même s'il y a ces relations humaines qui sont horribles. Tu vois, t'es super jeune. Comment t'arrives à retirer du positif déjà à ce moment-là?
Ça, Julie, je crois que c'est une philosophie de vie. C'est quelque chose... je pense que vraiment, je suis convaincue que tu choisis... ce que tu fais de ta vie. Et c'est quelque chose que je dis régulièrement à mes enfants, c'est soit tu subis les choses, soit tu y fais face et tu t'armes pour y faire face et tu choisis en fait l'impact que ça a sur toi, mm-hmm. tu vois. Et donc c'est vraiment une philosophie de vie. Et moi, je suis quelqu'un de profondément positif, tu vois. Et donc je ne verrai jamais le verre à moitié vide, je le verrai à moitié plein. Et c'est peut-être une phrase un peu bateau, mais c'est vraiment quelque chose qui est ouais. hyper hyper ancré chez moi et qui est hyper important, parce que je veux dire, des difficultés, on en rencontre tous, toutes et toutes, et à toi, soit à les affronter et dire voilà, ça fait partie de la vie et c'est peut-être pas un hasard que les choses arrivent comme ça et voilà, je dois me relever, j'en prends l'enseignement, mais ou bien tu te laisses abattre et puis tu t'endosses tout et t'as un gros fardeau sur le dos, quoi, tu vois.
Ouais.
Et donc vraiment, c'est pas pour prêcher la bonne parole ou voilà, c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois profondément. Et je pense qu'en plus, au plus tu es positif, au plus les choses qui t'arrivent sont positives. Ça aussi, j'en suis convaincue. On parle de série noire.
Et du coup, comment t'arrives dans le secteur public et est-ce que tu découvres un peu un nouveau monde, quoi, par rapport au secteur privé?
On peut dire ça, un nouveau monde. En tout cas, un monde vraiment différent. Alors, c'est de nouveau par... donc, on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard. Mais donc, là, c'est de nouveau, j'ai envie de dire, plus par rapport au réseau, que j'arrive dans le secteur public, parce qu'en fait, donc je quitte ce monde de salarié où je ne m'y retrouve plus. En fait, je vais t'avouer qu'à ce moment-là, dans ma dernière fonction, je me demandais, c'est dingue de dire ça aujourd'hui, hein, mais c'est, j'allais au boulot et des fois je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées, quoi? Mmh. C'est fou, hein?
Ouais.
C'est fou. Aujourd'hui, je sais même plus comment, enfin voilà, je voudrais trouver plein d'espace-temps pour pouvoir me dire, je fais, tout ce que j'ai à faire, mais là, à l'époque, des fois, je m'embêtais, quoi. Et donc, voilà, je me dis, il est temps que je parte, etc. Et en fait, je parle autour de moi que j'ai envie de changer d'air, etc. Et grâce au réseau, je finis par, alors que je pensais pas du tout travailler dans le public, je passe une interview à l'administration communale de Wavre. Et à ce moment-là, l'administration cherche un responsable communication. Mmh. Et donc, je passe l'entretien, etc. À l'époque, c'était encore Charles Michel, il était encore bourgmestre. Puis, il y a la bourgmestre faisant fonction aussi, la secrétaire générale. Et puis, on discute et c'était une très, très chouette discussion. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, vient le fait que moi, j'aime bien l'événementiel, que j'ai toujours travaillé là-dedans en société privée. Et ils me disent finalement... Mais en fait, vous savez quoi, on cherche aussi, c'est pas encore officiel aujourd'hui, mais nous sommes en train de mettre en place dans l'échevinat de culture et festivités, justement une équipe pour s'occuper de tout ce qui est festivités pour l'administration. Est-ce que ce serait plutôt un job comme ça qui vous intéresserait? Mmh. Et honnêtement, c'était génial, parce qu'en fait après ils ont engagé donc la personne en communication, responsable communication, puis moi j'ai été engagée aussi. ils ont relancé un process d'interview, etc., pour ce poste-là, et puis c'est moi qui ai été engagée. Et en fait, quand j'ai vu ce que c'était le job de la com, et ce que c'était mon job en tant que chargée de la culture et des festivités, c'était quelque chose qui me convenait beaucoup mieux, évidemment, que faire de la communication pour une administration qui finalement ne m'aurait pas plu. Et donc finalement, j'ai quand même fait presque 9 ans à l'administration communale de Wavre, et c'était une expérience extraordinaire, super enrichissante.
Trop bien. Et du coup, comment t'as quitté tout ça pour devenir la fondatrice de Womanly?
Alors, comment est-ce que j'ai quitté tout ça? Écoute, en fait, le public, c'est très chouette. Ça fait partie, je pense que c'est un milieu très particulier et qui, j'ai envie de dire, il y a des règles qui font... Il y a des process. On sait que c'est des process très lents, très lourds, etc. Que l'administration, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace. Mais au départ, bah, tu te dis, voilà, ça, ça fait partie du jeu. Moi, j'ai accepté ces règles-là. Je savais à quoi je m'engageais. Et donc, au début, bah, tu te dis, bah oui, ça fait partie du jeu. Et puis, en fait, petit à petit, toutes ces choses qui, et je suis désolée de le dire aussi ouvertement, toutes ces choses qui font que, voilà, ça prend du temps, ça, il faut l'aval de 3 personnes avant qu'il y ait une décision qui soit prise, ouais, etc., etc. Moi, ça a commencé à vraiment me peser, mais vraiment me peser. Et petit à petit, en fait, je me suis dit, ok, après, j'ai eu, mais vraiment, mon expérience a été vraiment sur la globalité, a été vraiment géniale, mais sur la fin, voilà, c'était c'était plus le système en fait qui ne me convenait pas, qui ne me convenait plus, et puis j'avais fait le tour des événements, etc. Et moi, je suis une bâtisseuse. Il y a rien à faire. Je suis pas une, comme on dit, les farmers et les hunters. Moi, je suis pas quelqu'un qui entretient, etc. J'aime bien bâtir. J'aime bien que ça avance. Et donc, et puis j'avais déjà ce tempérament entrepreneurial. Et donc, finalement, en fait, fort de toute mon expérience, de cette expérience au MIT à Boston, etc., je me suis dit, et aussi en voyant en fait les autres directeurs de bureau et directrices de bureau à l'administration qui commençaient un peu à s'aigrir comme ça, moi je me suis dit, mais non, moi je veux pas rester dans ce milieu, c'est le moment de sortir, il faut que je sorte de cette zone de confort comme on l'appelle, parce que sinon à un moment je vais finir par moisir en fait dans ce système. Et puis il y a eu un événement, et donc pendant des semaines, je me suis dit mais j'ai pas d'idée pour qu'est-ce que je vais faire, etc. Autant dire que maintenant que je suis indépendante entrepreneur, j'en ai des idées, mais j'en ai plein. Mais à l'époque, je me disais, mais j'ai pas l'idée, qu'est-ce que je vais fonder, quoi, tu vois. Et puis en fait, c'est un très très simple, comme quoi il y a des signes partout, et à qui veut bien les voir. En fait, un jour, t'as un ami à mon frère qui m'appelle et qui me dit, Marie, Porsche fête ses 70 ans, et donc l'équipe de Dieterun donc cherche une personne pour aider la chargée de projet de l'événement à porter le projet sur la dernière ligne droite. Elle cherche pas de stagiaire parce que voilà, elle est trop le nez dans le guidon, elle a pas le temps de superviser quelqu'un. Par contre, voilà, est-ce que toi tu serais disponible pour venir aider? Et donc super chouette, mais sauf que je suis encore complètement salarié à l'époque, et et en même temps, je lui dis, écoute, tu sais quoi, laisse-moi juste 2-3 jours et je te reviens avec une décision. Je rentre chez moi, j'en discute avec Olivier, mon mari, et qui me dit, mais Marie, mais vas-y, fonce, quoi, c'est ça, enfin vas-y, c'est l'opportunité, il faut que tu y ailles. Et donc en 2-3 jours, j'avais pris mon numéro de TVA et j'avais appelé différents secrétaires sociaux, ouais. Et puis voilà, ça s'est vite mis en place, et voilà, en fait, l'idée, elle était là, ça a mis du temps à germer, et puis en fait, une fois que j'ai eu l'opportunité, voilà, je me suis dit, en fait, c'est ça que je dois faire, c'est quitter le fait de travailler pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment construire mes propres rêves et pas ceux de quelqu'un d'autre, en construisant moi-même mes événements, mes propres événements, quoi, tu vois.
Trop chouette.
Et donc, voilà.
Et est-ce que tu avais des exemples autour de toi de personnes entrepreneuses comme ça?
Alors, dans la famille, en fait, mes grands-parents avaient des fonctions. Enfin, donc d'un côté, ils étaient agriculteurs, de l'autre côté, ils étaient plutôt dans tout ce qui était médecine. Et donc, eux étaient des indépendants, entrepreneurs. Et par contre, mes parents sont salariés, ouais, mais avec un tempérament assez entrepreneurial. Et mon frère venait de se mettre comme indépendant, venait de se lancer comme indépendant, et donc il me disait, Marie, ça t'irait bien aussi.
Donc il y avait une mentalité quand même dans la famille.
Mais en fait, tu viens sur un sujet qui est très important pour moi, c'est que je trouve qu'il y a une énorme différence entre le fait d'être indépendant et le fait d'être entrepreneur. Ouais. Et pour moi, être indépendant, c'est vraiment de l'ordre du statut, que être entrepreneur, c'est vraiment l'ordre de l'état d'esprit, tu vois. Et donc, un entrepreneur, pour moi, est quelqu'un qui va voir les opportunités là où les autres ne voient pas, qui va en faire du business et en générer du profit, tu vois. Et donc, tu peux avoir des gens entrepreneurs, et souvent, on les appelle d'ailleurs les intrapreneurs, qui sont en société. Et donc, dans la famille, il y a cet état d'esprit entrepreneurial, clairement, qui nous a été amené par mes parents, mes grands-parents, etc., même s'ils étaient salariés.
Et tu penses que d'avoir le soutien de ton mari, ça t'a aidé aussi
Ah, mais t'imagines pas. Ah oui, mais non, c'est un... Ah oui, mais oui, bien sûr, bien sûr. Je n'aurais pas pu me permettre de, avec quatre enfants, on a quatre enfants, ouais. De me lancer comme indépendante, comme je l'ai fait, sans le soutien d'Olivier, bien sûr. Et on a fait un contrat entre nous, voilà, pour se donner une deadline, pour être rentable, etc. Et donc, c'est quelque chose de très précieux pour moi. Et pour lequel je le remercie, mais vraiment infiniment. Et d'ailleurs, j'ai énormément, énormément de respect pour toutes les solopreneurs ou tous les solopreneurs qui ont des enfants, etc. et qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que vraiment, chapeau, quoi. Aujourd'hui, je trouve qu'en Belgique, on n'est pas du tout assez aidé pour monter son entreprise. Ouais. Or, pour moi, c'est vraiment l'avenir de demain. Quand je vois les grosses boîtes, il y a quand même beaucoup de grosses boîtes qui s'effondrent, où les gens quittent en fait tout ce qui est corporate parce qu'en fait, ils s'y retrouvent plus. Ça fait plus sens pour eux. Et donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, il faut encourager les gens à justement oser entreprendre. Et c'est vrai que moi, ça a été un soutien, et ça reste encore un soutien au quotidien. Non seulement ça a été un énorme soutien financier, parce qu'avant que je ne puisse régénérer le profit que je gagnais en tant que salarié, ça a mis du temps. Mais c'est aussi un soutien moral quotidien, d'avoir quelqu'un auprès de soi qui te porte, qui t'aide, qui te challenge, qui brainstorm, ou bien qui te dit aussi reste quand même, ne t'éparpille pas, ou enfin toi, et donc qui te rappelle à la réalité aussi, ou bien qui t'encourage. Donc oui, c'est vraiment un soutien énorme.
Oui, est-ce que tu as été aidée à tes débuts en tant qu'entrepreneuse, justement, notamment pour la gestion financière, pour la gestion de tout l'administratif, etc. Est-ce que tu as eu des aides externes?
Non. Donc, moi, je suis vraiment autodidacte dans mon parcours entrepreneurial. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle Women League aujourd'hui existe. Le seul vraiment précieux cadeau, mais vraiment très, très précieux cadeau que j'ai eu au début, j'étais déjà indépendante depuis au moins un an et demi, c'est de pouvoir être sélectionnée par le réseau Entreprendre Bruxelles, qui est pour moi un outil extraordinaire, vraiment pour au soutien des starters, vraiment.
Ouais. Et comment ils t'ont aidé?
Alors, ils m'aident encore aujourd'hui, en fait. Le réseau Entreprendre, si tu veux, tu dois passer une sélection, une première sélection devant trois personnes. Si t'as au moins deux personnes qui valident ton projet, tu passes devant un jury de 15 personnes. Et puis, t'es accepté ou t'es pas accepté. Si t'es pas accepté, tu peux repostuler par la suite. Si t'es accepté, c'est génial. Donc, moi, j'ai été acceptée. Et en fait, ils t'offrent pendant 2 ans, non seulement un business coach, donc il va t'être attribué, tu vas pouvoir aussi d'ailleurs valider le coach, tu vois, donc si c'est quelqu'un avec qui ça passe pas, l'énergie, etc., le courant passe pas, tu peux très bien, très sereinement dire, et qu'on va changer. Mais par contre, enfin moi ça a été tout de suite du tac au tac, ça a cliqué, c'est avec Tanguy Veninis, un gars extraordinaire. Et donc Tanguy donc m'accompagne comme ça de manière ponctuelle, donc et de manière totalement gratuite pour moi.
Ah ouais.
Et à côté de ça, à côté de ce business coach, tu as aussi l'opportunité d'avoir tout un réseau, parce qu'en fait tous les coachs au sein du réseau sont des chefs d'entreprise et donc qui ont un vécu, qui ce sont vraiment des vrais mentors, quoi. Et donc c'est génial. Il y a aussi à côté de ça des événements de networking, mais aussi des conférences, et puis aussi beaucoup d'ateliers. Maintenant ils organisent par semaine, par exemple la semaine de la communication marketing, puis la semaine financière, et donc c'est vraiment génial. Il y a vraiment une source d'information, de soutien vraiment extraordinaire.
Excellent.
Ouais.
Et comment, en fait, tu as eu ce déclic? Tu disais que tu cherchais un peu l'idée pour te lancer en tant qu'entrepreneuse. Comment tu as eu cette idée de Womanly? Pourquoi tu as eu cette envie justement de créer ce réseau de femmes?
Alors, l'idée n'est pas de moi au départ. Donc, l'idée est de mon ancienne associée qui avait le souhait de créer un espace de coworking et qui s'est dit, en fait, il y a énormément déjà d'acteurs sur le marché. Donc, si je ne crée pas une niche à mon espace, je ne risque pas j'ai peu de chances de m'en sortir. Ouais. Et donc, il y a 5 ans d'ici, on parlait de plus en plus et on commençait seulement vraiment à parler de la place de la femme dans le monde économique. Et donc, il s'est dit, en fait, c'est ça l'idée. Je vais créer un espace de coworking. Alors, je succinct une histoire plus longue, mais en gros, c'est ça. Je vais créer un espace de coworking dédié à l'entrepreneuriat féminin. Mmh. Et puis, grâce au réseau, à nouveau, eh bien, et là, c'est là que je te dis, c'est d'une ancienne personne que j'avais rencontrée dans la deuxième société dans laquelle j'avais travaillé. J'ai été retrouver cette personne-là. Et donc, c'est au moment où je me lançais. Et j'avais été, pour moi, c'était quelqu'un qui était vraiment une figure de proue, c'est John Gossens, une figure de proue au point de vue événementiel. Et j'ai été retrouver John quand je me suis lancée en disant, ben voilà, j'ai envie de te pitcher mon projet. Qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, lui m'a dit, Marie, mais écoute, l'événementiel aujourd'hui, c'est vraiment bouché. Il y a énormément d'offres sur le marché et il y a de moins en moins de financement pour toutes ces activités. Donc, voilà, il est très chouette ton projet, mais tu risques de recevoir des cacahuètes et ça va être compliqué, quoi. Par contre, j'ai quelqu'un à te présenter parce que il avait justement rencontré donc mon ancien associé qui avait cette idée de développer des espaces de coworking et qui cherchait du coup une figure de proue féminine pour l'aider avec lui, l'aider au day-to-day pour développer le projet avec lui. Et John m'a fait rencontrer Christophe, qui était mon ancien associé, qui avait cette idée. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a discuté autour du projet et tout. Et honnêtement, pour être très clair, je trouvais que c'était génial, c'est développer cet espace de coworking, parce que justement, en tant qu'autodidacte, à devoir retrouver moi-même les filons pour trouver une bonne comptable, la communication, etc., etc. Enfin, t'imagines toutes les casquettes que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur. Ben, moi, j'avais tout trouvé toute seule et en plus, je travaillais de manière isolée à la maison. Donc, je me suis dit, mais c'est génial, oui, un espace de coworking où on pourra s'échanger, se proposer de l'aide entre nous, etc. C'est extraordinaire. Mais toutefois, je me suis quand même dit, juste avec des femmes, est-ce que c'est vraiment un truc pour moi, quoi, tu vois?
Ah, oui.
Je me suis posé la question. Et là maintenant, Julie, après 4 ans d'existence, c'est hyper puissant, évidemment. Je n'ai plus aucun doute là-dessus. C'est extraordinaire tout ce qui se passe chez Womanly. Mais voilà, je m'étais quand même posé la question au départ de est-ce que ça me conviendrait, toi?
Ouais. Mais c'est trop chouette parce que ça t'a fait changer ton a priori de base, quoi.
Oui. Bah alors j'avais un oui tout à fait. J'étais très ouverte à la question en me disant. Qu'est-ce que ça a de plus, quoi, tu vois? Vraiment, non, c'est extraordinaire.
Et qu'est-ce que ça a de plus, finalement?
C'est la question. Alors, il n'y a rien à faire. Hein, c'est l'énergie qui s'y passe. L'énergie entre toutes ces personnes qui est très fort dans... Alors, c'est clairement quelque chose que moi, j'ai insufflé dès le départ parce que c'est ça qui me plaît.
Ouais.
Moi, c'est pas louer des chaises de bureau qui me plaît. C'est vraiment créer de la connexion entre les gens, créer de la relation entre ces gens, que toutes ces femmes puissent faire du business entre elles, qu'elles puissent apporter des affaires, qu'elles puissent se nourrir l'une l'autre, se tirer les unes les autres vers le haut au quotidien en partageant leur expertise, en partageant leur réseau, en partageant leurs connaissances, enfin, plein de choses. Et donc, y a rien à faire. On ne fait pas du business de la même manière. Mmh. Et l'énergie que la femme a besoin pour se développer est différente probablement que. Alors ça peut être très réducteur ce que je dis, mais on a une énergie différente entre genres. Mmh. Donc ce qui se développe, il y a vraiment cet aspect très sororité. Il y a rien à faire aussi. On partageait en tant que femme, tu partages vraiment des réalités similaires par rapport aux autres femmes, et tu sais beaucoup plus facilement te projeter dans une femme que dans un homme.
Ouais.
Et donc aujourd'hui, Womanly, et là je voudrais vraiment être très clair là-dessus, c'est qu'aujourd'hui Womanly est genrée parce que la société est en mouvance, qu'on est dans une vraie transition par rapport à ça. Mais moi, ma vision en fait, c'est que demain, le critère de genre ne fera plus partie des consciences dans le milieu professionnel et qu'on fera seulement attention à tout ce qui est expertise, valeur, attitude et compétences. Et donc, avant d'arriver à ça, ben, il faut des outils comme Womanly,
ouais,
tu vois, pour pouvoir amener l'équilibre par rapport à cette place économique de chacun,
ouais,
tu vois.
Et peut-être aussi donner justement cette impulsion aux femmes d'oser prendre leur place, comme tu le disais tout à l'heure, quoi, parce qu'on n'est pas dans une société où la femme est valorisée. Enfin, en tout cas, on est dans une société qui reste patriarcale. Donc, c'est nécessaire comme ça de leur donner cet empowerment, comme on dit.
Tout à fait. Leur donner envie et leur montrer que c'est possible d'entreprendre. Tu vois, même quand on est maman, c'est un des plus gros freins. C'est
de se dire,
je ne peux pas combiner une vie de famille avec une vie d'entrepreneur.
Mm-hmm.
Tu vois, mais si, si, il y a moyen en s'organisant bien, vraiment. Mais aujourd'hui, c'est normal. On manque de rôle modèle par rapport à ça. Et puis il y a tous les freins et toutes les difficultés financières, la relation à l'argent pour une femme. Et, alors, j'ai pas envie de faire des généralités parce que Womanly n'est pas là pour toutes les femmes évidemment. Mais en tout cas, il y a une grande proportion de d'entrepreneurs qui aujourd'hui ont encore énormément de mal à valoriser leur expertise. Énormément, quoi. Et pourtant, elles ont tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, quoi. Mmh. Donc, mais c'est vraiment tous ces biais que la société met aux femmes, mais aussi tous les biais que les femmes se mettent elles-mêmes. Ouais, ouais, on est les premières auto-sabotrices, comme ouais, ça on dit. Et donc oui, c'est important. Et c'est ça aussi, en fait, aujourd'hui, quand on me dit on manque de rôle modèle féminin, moi, j'ai envie de leur dire, mais non, allez, ouvrez vos yeux, il y en a, t'en rencontres tous les jours, mmh. tous les jours, quoi. Mais c'est vrai que dans les médias, dans les cadres, en entreprise, etc., ben, elles sont encore fort absentes.
Ouais, et, ouais. Puis, il faut rendre ces rôles modèles aussi accessibles, parce qu'on peut se dire, finalement, cette femme-là, oui, elle est à ce stade-là, mais est-ce qu'elle a le même parcours que moi? Est-ce qu'elle a le même background familial, financier, etc.? C'est ça dont on a besoin, c'est des rôles modèles, mais qui soient accessibles.
Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Entièrement d'accord.
Et donc, Womanly, c'est en février 2020 que tu l'as ouvert, ouais. Donc un mois avant le confinement. Est-ce que ça t'a fait peur de voir que, voilà, d'un coup, tout s'arrêtait alors que tu venais de lancer cet espace?
Non, mais attends, mais ça a été la merde. C'est pas que ça m'a fait peur, ça a été horrible, mais juste horrible. Il faut bien se dire que donc on se retrouve, donc on ouvre ici le 6 février, on a une super couverture de presse, j'ai une super PR qui m'aide pour ça, qui s'appelle Nathalie Watrin, et franchement j'en fais sa pub parce qu'elle est extraordinaire. Et donc on est ici dans un métier de contact, moi j'ai encore aucun réseau au point de vue entrepreneurial, et en un coup, 25 jours après, on ferme les portes, quoi. Donc il y a plus personne qui peut venir dans notre espace, il y a personne qui connaît Womanly, c'est un concept un peu innovant, même complètement innovant. On est le premier espace de coworking dédié à l'entrepreneuriat féminin, et donc qu'est-ce qu'on fait? On a des loyers à payer tous les mois et on a aucune rentrée.
Ouais.
Et donc, en fait, là, c'est un truc... je pense que c'est finalement, après coup, je trouve que c'est devenu... ça a été une opportunité pour moi, vraiment, cette crise sanitaire, qui a été très, très difficile à encaisser, mais qui a été vraiment une opportunité. Et je m'explique. C'est qu'en fait, en voulant quitter le monde salarial, je voulais donc quitter cette zone de confort. Alors maintenant, aujourd'hui, je ne dirais plus que je veux quitter ma zone de confort, mais je veux agrandir ma zone de confort. Et donc, la nuance est importante. Et donc, mais à l'époque, j'étais encore dans cet état d'esprit de me dire, je veux quitter cette zone de confort. Mais je peux dire que je l'ai quitté rapidement. Parce qu'en fait, j'avais pas de cliente, j'avais personne, je connaissais personne, etc. Et donc, le seul objectif que j'ai eu très rapidement, en fait, c'est d'abord la douche froide. Je venais ici, dans ce grand bâtiment, il n'y avait pas encore une entreprise. On était, je pense, deux, parce qu'il y avait un autre gars, d'ailleurs, avec qui on blague très souvent maintenant, qui est toujours là aussi, qui était dans l'espace de coworking business. Et donc, on se voyait de temps en temps. Mais j'arrivais ici, moi, j'allumais le plomb. Donc, je refermais le plomb quand je partais, quoi. Donc, puisqu'il n'y avait plus personne. Et en fait, j'ai eu ce sentiment horrible de me sentir très seule, parce qu'en fait, aussi, ce qui s'est passé, c'est que mon ancien associé et moi, on n'a pas du tout géré la crise de la même manière. Et donc, je ne m'étalerai pas sur les choses, mais on ne s'est plus retrouvé du tout. Et donc, lui a été très, très absent. Et en fait, moi, je me suis retrouvé en me disant, OK, je ne suis plus dans le monde salarié ici. J'ai plus un petit salaire qui me tombe tous les mois sur mon compte. Et je le savais. Mais le fait de se retrouver dans cette situation a été quand même très impactant. Et le fait de le vivre, c'est autre chose que de le savoir. Et donc, si moi, je ne me bouge pas, il n'y a personne qui le fera pour moi, quoi. Et ça a été un des plus gros enseignements. Et c'est quelque chose que je dis maintenant quand j'accompagne des gens en business consultance. C'est vraiment quelque chose que je dis très souvent. C'est au départ, si toi, tu ne fais pas les choses, les gens ne le feront pas pour toi. C'est toi d'abord qui dois bouger, quoi. Et ça paraît tellement normal, mais c'est quelque chose qui est pas toujours facile à mettre en place. Et moi, bah, la crise sanitaire m'a vraiment aidée à directement agir, quoi. Mmh. Et donc, directement, ce que j'ai fait, c'est faire des vidéos de l'espace. J'avais jamais fait ça, hein, m'exposer. Moi, je travaillais dans l'événementiel. Pourquoi j'aimais bien travailler dans l'événementiel? C'était parce qu'en fait, je mettais en lumière les autres tout en faisant un travail d'ombre. Mais tout en sachant que c'était grâce à moi qu'il était en lumière. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et là, ben là, je dois m'afficher. C'est mon entreprise. C'est moi le vecteur aller chercher ces opportunités business. Et c'est moi qui dois bouger, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des vidéos et en fait, faire des petites visites virtuelles de l'espace pour avoir un seul objectif, c'était que pour le jour où on puisse ouvrir, qu'il y ait des gens qui aient envie de taper à la porte de Womany en disant, ben voilà, moi j'ai envie de venir essayer l'espace, etc. Et déjà créer cette notoriété et cette communauté un peu virtuelle, quoi. Donc ça a été très, très dur, mais vraiment très, très dur. Mais en soi, je pense que ça a été aussi un bon coup de pied aux fesses, quoi. Mm-hmm.
Et justement, oui, par la suite, est-ce que ça a aidé Womany à accueillir des personnes? Le fait que voilà, le confinement, ça a aussi un peu changé nos mentalités. Déjà, on était beaucoup chez nous, donc les gens avaient envie de sortir de chez eux après. Mais il y a aussi plein de gens qui ont mis en question leur carrière et eu envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, envie d'oser justement vivre de leurs rêves. Est-ce que ça a été une opportunité aussi dans ce sens-là, ces confinements successifs? C'est que y a plein de gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat.
Je pense que oui. Je pense que ça a été une opportunité. Je pense aussi que ça a été une opportunité pour avoir des salariés au sein des espaces de coworking. Ah, oui. Par contre, je ne sais pas comment les choses ont évolué parce que maintenant, aujourd'hui, tu vois qu'il y a quand même aussi un vrai retour au bureau. Aussi, enfin, par exemple, je pense aux entreprises, donc il y a vraiment un vrai retour au bureau. Donc, par exemple, à toute cette niche de salariés qui, à un moment, se sont retrouvés dans des espaces de coworking et pour qui c'était bien, parce qu'en fait, ils ont toujours ce lien social et tu vois ce bien-être mental en voyant des gens et en sortant de chez soi, qui maintenant doivent, et qui vont dans un espace de coworking proche de chez eux, qui maintenant doivent refaire des kilomètres, etc., pour rejoindre l'entreprise. Donc, je trouve que c'est je sais pas comment les choses ont évolué en tout cas pour les entreprises, mais voilà, c'est un peu dommage qu'on repasse un peu comme ça de rien à tout, tu vois. Par contre, par rapport au point de vue entrepreneurial, clairement je pense que c'est le confinement a fait en sorte qu'on parle plus peut-être d'espace de coworking pour justement recréer le lien social, etc. Maintenant, il y a espace de coworking, espace de coworking. Il y a des espaces de coworking où les gens, en fait, ne se parlent pas. Et ça, pour moi, c'est bien dommage parce que pour moi, la plus-value d'un espace de coworking, c'est justement là où on va créer du lien. Et donc voilà. Donc oui, je pense que ça a été une opportunité en fait. Le confinement, les gens avaient besoin de ressortir. Les gens avaient vraiment besoin de ressortir, recréer du lien. Et donc grâce à et encore aujourd'hui en fait, hein, parce que maintenant ça fait allez, 2 ans qu'on est plus ou moins, je pense, qu'on est sorti de tout ça. Et aujourd'hui, le contact est tellement tellement important, quoi, tellement significatif.
Et aujourd'hui, la communauté Womany, c'est combien de personnes?
Alors, en contrat actif, donc ça veut dire en espace des personnes qui ont vraiment l'abonnement coworking, on a une bonne cinquantaine. Et au point de vue de la communauté, il faudrait que je refasse une fois le calcul, mais je l'ai fait il y a 6 mois, et on était à un bon 350 personnes. Oh. Donc ça veut dire que c'est des gens qui viennent régulièrement aux événements, qui viennent de temps en temps se poser pour un daily pass, etc. Donc qui gravitent vraiment autour de Womany, qui réservent la salle de réunion, qui prennent part d'une manière ou d'une autre, pas de manière quotidienne, mais qui font partie de l'écosystème de Womany.
Oui, comment ça se passe en fait? Une fois que tu veux faire partie de Womany, comment ça se passe? T'organises une journée découverte? C'est quoi le principe?
Le principe, c'est que tout d'abord, donc j'invite toute personne qui souhaite en savoir plus sur Womany, sans pression. Donc même si la personne se dit, j'ai pas vraiment besoin d'espace de coworking, mais je vais quand même aller tester. Je l'invite vraiment, mais avec grand plaisir, à venir découvrir l'espace, à venir se poser au sein de Womany une journée pour vraiment profiter, voir si les vibes sont adéquates pour la personne et si elle s'y retrouve. Et puis ensuite, ce jour-là, je me fais un point d'honneur d'être présente et donc d'accueillir la personne. Parce que pour moi, de nouveau, j'en reviens à l'humain. On fait du business avec des gens et pas avec des projets. Et donc, pour moi, l'humain avant tout. Et donc, je veux absolument rencontrer la personne pour comprendre quel est son besoin, ce qu'elle développe, qui elle est, et voir comment je peux l'intégrer de la même, de la meilleure manière dans la communauté, comment je peux répondre à son besoin, qui je peux lui faire rencontrer pour l'aider ou, enfin voilà. Et donc directement l'intégrer dans la communauté. Ensuite, si par la suite, suite à cette journée, elle se plaît et qu'elle a envie de continuer l'aventure, eh bien, il y a plusieurs formules qui s'offrent à elle en fonction de la possibilité et de l'envie qu'elle aura envie de passer au sein de l'espace. Donc, ça peut être, au départ, il y a une journée par mois. Mais là, c'est plus, en fait, la formule où tu as envie de faire partie de la communauté. Donc, tu as des prix préférentiels sur les activités mensuelles. Tu as aussi le partage de compétences qui est offert, etc. Enfin, voilà, pour ne pas rentrer trop dans les détails, où on rentrera après tout à l'heure si jamais. Donc tu peux soit commencer avec une journée par mois, puis après, c'est les 4 journées par mois avec l'équivalent. Bah, en fait, tu peux prendre soit tes 4 journées sur une semaine ou bien une journée par semaine. C'est vraiment, tu fais comme tu veux, mais t'as accès à 4 jours par mois. Puis alors, t'as l'half-time où c'est 3 jours par semaine et puis le full-time où c'est full-time, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une domiciliation, etc. Ouais. Et en fonction, mais tout ça est sur le site de Womanly, bien expliqué. Et puis voilà, et au besoin, ben voilà, moi j'explique aussi ça. Mais donc, c'est vraiment en fonction du besoin. Je pense qu'il y a pour tous les besoins. Ouais. Et donc, en fonction de ce qui est bon pour la personne, ben, il y a moyen de trouver ce qui lui plaît. Et sachant qu'aujourd'hui, ben, on est à Watermael-Beaufort et qu'en janvier, nous serons à Namur aussi.
Ouais.
Donc, il y a ce deuxième site qui ouvre. Et donc, par exemple, les full-time auront l'opportunité de pouvoir aller se poser à Namur ou à Bruxelles en fonction de leur agenda. Parfait. Et voilà.
C'est une fierté pour toi d'ouvrir ce deuxième espace ?
Oui, bien sûr. C'est une fierté, c'est une vraie fierté. Et je pense surtout que c'est un vrai besoin.
Ouais.
Et donc, je pense qu'en Wallonie, aujourd'hui, il y a encore très peu trop peu d'outils au soutien de l'entrepreneuriat féminin et au soutien, en fait, de l'entrepreneuriat en général.
Ouais, ouais.
Et donc, je suis tellement convaincue... Le chemin de l'entrepreneur est tellement parfois difficile, et semé d'embûches et plein de doutes et même quand c'est même dans les succès, en fait, c'est bien d'être entouré. Et donc surtout, il faut pas rester isolé, quoi. Il faut vraiment pouvoir partager avec d'autres qui vivent les mêmes choses que nous, qui font face aux mêmes situations que nous, pour pouvoir vraiment s'entraider. Et donc rejoindre un espace de coworking, pour moi, ça fait tellement sens, quoi. Parce que les espaces de coworking, quand ils sont dans une bonne dynamique, sont des viviers d'expertise et de talents dont il faut bénéficier, tu vois. Et donc, je pense que oui, le deuxième espace, mais c'est bien au-delà de la fierté. C'est vraiment une évidence, en fait.
Très chouette. C'est vraiment... t'offres l'espace que toi, t'aurais aimé avoir, en fait, à ces femmes?
Oui, et l'espace que j'ai aussi, en fait.
Ouais.
Parce que je fais partie à part entière de cette communauté et je viens travailler facilement 2 à 3 jours par semaine, soit ici, soit à Namur. Et donc, oui, pour moi, c'est très important. Et je ne me verrai pas, par exemple, dans un bureau fermé au sein de Womanly.
Ouais.
Je m'installe, je suis une des premières personnes que tu vois quand tu rentres dans l'espace, dans le lobby. Et c'est fondamental pour moi parce qu'en fait... c'est comme ça aussi que je comprends les besoins de mes clientes et que je peux y répondre au mieux. Et donc, oui, je pense que c'est l'espace que j'aurais aimé et c'est l'espace que j'aime, en fait.
Oui. Et elle t'apporte vraiment autant que ce que toi, tu peux leur apporter.
Ah oui. Bah, sans elle, moi, je ne suis pas là. Hein.
Ouais.
C'est elles qui font Womanly. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai mis la... Je veux dire, j'ai envie de dire, je suis un peu le... La personne qui a mis l'étincelle de départ et qui fait le chef d'orchestre de temps à autre, mais Womanly, c'est pas moi. C'est vraiment toutes ces personnes qui ont rejoint et qui me font confiance au quotidien. et que je remercie mais infiniment, mais vraiment infiniment.
Trop chouette. Et on n'en a pas encore parlé, mais tu as un passif aussi de sportif de haut niveau. Cette discipline justement de ton passé de sportive, ça t'aide dans l'entrepreneuriat aujourd'hui ?
Au quotidien. Au quotidien. Il y a une énorme corrélation et les sportives et les sportifs qui écoutent, à mon avis, vont totalement s'y retrouver. Mais il y a vraiment une énorme corrélation entre le fait d'être sportif, soit de haut niveau, soit d'endurance, mais en tout cas quelqu'un qui fait du sport de manière régulière, avec des objectifs, que le chemin de l'entrepreneur. Mmh. Et donc, je pense que moi, en faisant un step back pour regarder un peu mon chemin parcouru, c'est la discipline sportive et les valeurs sportives qui ont fait que au moment où j'étais où c'était compliqué, par exemple dans le parcours entrepreneurial, qui ont fait que ben je m'en sortais le mieux. Vraiment. Mmh. Et au quotidien, et donc c'est vrai, donc j'ai joué au volleyball en première nationale pendant des années. Maintenant aujourd'hui, je fais plus du trail de moyenne distance. Et encore aujourd'hui, c'est essentiel, quoi. Cette discipline sportive pour moi et ça fait tellement sens, quoi. Tu vois, je trouve qu'on développe les mêmes facultés. Par exemple, c'est un simple exemple, c'est la perception à l'effort.
Ouais.
Tu vois, t'es assis dans ton fauteuil, tu bouges jamais, tu vas devoir faire. Ça va te demander un effort, mais de dingue, d'aller faire 5 kilomètres, tu vois. Et puis, en fait, si tu fais ça quotidiennement, ben, tu ne le sens même plus, c'est plus un effort, quoi, tu vois. Et je pense que la perception, la manière dont tu vois les choses, une fois que tu es en action, ça t'aide, quoi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire.
Ouais, ouais. Et aujourd'hui, le sport, ça permet aussi de te recentrer comme ça, parce que la vie d'entrepreneuse, c'est... c'est challengeant, quoi. Ça permet de te recentrer et de te nourrir, de te remettre, d'être bien, tout simplement, et d'être focus sur tes projets ensuite.
Oui, oui, oui. Il y en a avant, tu vois, des grosses négociations ou des grosses réunions qui vont aller faire du yoga, peu importe, ou de la couture, ou lire un bouquin, ou écouter de la musique. Moi, je vais courir. Et c'est un truc de fou, hein. Je vais courir, mais c'est prouvé aussi scientifiquement, hein, d'ailleurs, hein, qu'on sécrète des hormones qui font faire que on développe nos capacités intellectuelles. Et en fait, quand je vais courir, les choses vraiment se structurent dans ma tête. Et se renforce vraiment de manière hyper forte. Et donc oui, ça m'aide énormément à structurer mes pensées. Mm-hmm. Et à refixer mes objectifs et voir où j'en suis, etc. Et en fait, ce qui est fou, c'est que les semaines où je me dis j'ai pas le temps d'aller courir, parce que normalement le mercredi matin je vais toujours courir. Si par exemple je ne vais pas courir un mercredi matin, je ça a une conséquence négative sur le reste. Ah ouais, mais complètement. Mmh. Complètement, quoi. Et je dis pas que moi c'est le sport, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres activités. Ouais, chacun trouve le l'activité qui lui convient, mais ça c'est un truc que je conseille énormément, c'est surtout prends-toi au moins 2 fois 2 heures. Et c'est pas encore, peut-être certains diront c'est pas suffisant, mais moi c'est ce que je me mets aujourd'hui, c'est au moins 2 fois 2 heures par semaine pour du temps pour moi. Mmh. Et là moi je vais courir, quoi.
Et en fait, c'est dur parce qu'on se dit « j'ai pas le temps », alors que c'est plus « il faut prendre le temps », quoi.
Il faut prendre le temps parce que tu vas le gagner après.
Ouais.
C'est tout ça va tellement te faire du bien, tellement te ressourcer, mm-hmm. qu'en fait, c'est un gain de temps. Mm-hmm. Mais c'est vrai que tangiblement, temporellement, c'est vrai qu'on se dit « non, en fait, je vais perdre mon temps ». Mais non, pas du tout, quoi. Mm-hmm.
Et depuis octobre, tu es devenue aussi, tu t'en as un peu parlé tantôt, tu es devenue consultante en business développement. Pourquoi il y a cette partie-là que tu voulais rajouter comme ça dans ton quotidien ?
Tout d'abord parce que c'est quelque chose que je fais depuis facilement 3 bonnes années, de manière informelle. Et là aujourd'hui, donc depuis quelques mois, j'ai voulu vraiment le déposer. Parce que je me suis rendu compte d'abord de la valeur que ça avait, donc ça c'est une chose importante. Et puis c'est parce que j'ai voulu, en le déposant, me donner plus de temps, en fait, justement, mmh. à cette activité, et en faire un vrai, vraiment la structurer.
Ouais.
Et donc, j'adore ça. En fait, j'adore vraiment. Il y a deux axes à ma consultance. Donc, comme je te le disais en amont, enfin avant l'enregistrement, c'est que je ne suis pas une coach et je ne veux pas me prétendre comme coach. Je suis pas certifiée avec plein de choses qu'on pourrait avoir, plein de certificats qu'on pourrait avoir. Par contre, je veux partager vraiment mon expertise par rapport au développement entrepreneurial. Et ça se fait sur deux accès. C'est vraiment tout ce qui est développement stratégique du business. Ça peut être donc retravailler son positionnement, ça peut être retravailler ses objectifs. Enfin, vraiment, ça peut aller dans plein de domaines, développement stratégique pur. Et si ça fait plus partie de mon champ de compétences, à ce moment-là, j'ai un réseau assez large que pour trouver des personnes qui peuvent être des personnes ressources avec qui je peux recommander. Et à côté de cet axe développement stratégique, il y a le côté et justement là, ça rejoint mon passé sportif qui est encore actuel, sportif, du développement mindset. Parce que pour moi, la base, mais la base de chez base, c'est que l'état d'esprit dans lequel tu fais les choses a un résultat mais vraiment significatif sur... ou en tout cas, attends, l'état d'esprit dans lequel tu fais les choses a un impact significatif sur le résultat de tes actions. Mm-hmm. Voilà, c'est plus clair dit comme ça. Et pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Si toi-même, tu n'es pas déjà convaincu que tu es experte ou expert et le meilleur dans ce que tu fais et que tu amènes vraiment une solution à quelqu'un qui a un besoin, mais comment les autres vont pouvoir être convaincus de ça, tu vois? Et donc, c'est simplement se dire, dans chaque situation, c'est se mettre dans le bon état d'esprit pour se donner les meilleures chances d'y arriver. Parce que c'est juste. Pas parce que je vais aller mentir ou raconter des bêtises, parce que c'est juste, tu vois. Et donc, en fait, au fur et à mesure des accompagnements, je me rends compte que ce côté, en fait, état d'esprit prend de plus en plus place par rapport au développement stratégique. Si ce n'est que, après chaque accompagnement, les gens ressortent vraiment avec des actions claires et nettes à mettre en place jusqu'au prochaine séance. Parce que moi, je trouve que il y a énormément d'outils aujourd'hui qui nous sont donnés pour faire de l'introspection, pour le développement personnel, pour, enfin voilà. Et c'est super, c'est très chouette. Mais à un moment, il faut avancer, quoi. Et donc, il faut de nouveau, et c'est là de nouveau le côté sportif qui parle, c'est il faut se mettre dans l'action. Il y a rien à faire. Tu peux lire des bouquins sur le marathon et devenir vraiment et connaître tout du marathonien. Si toi tu ne te mets pas un moment dans le mouvement et que tu ne fais pas les choses, personne ne le fera pour toi, tu vois. Et donc c'est très important pour moi d'être dans l'action et c'est step by step. Et là ce matin j'avais encore une personne, je recevais une personne et la première chose qu'on a fait, ça fait la troisième fois qu'on se voit, et là maintenant on a vraiment mis un plan d'action en place pour que elle ait une ligne de conduite, une ligne directrice, et elle peut sortir peut-être de ce plan d'action, tu vois, mais en même temps elle sait où elle va et elle a déjà une conduite qui est structurée, quoi. Et donc voilà.
Pourquoi c'est si important pour toi d'aider les autres ?
Ah, c'est une bonne question. très très bonne question. Parce que je crois fondamentalement, comme ça à chaud, que tout le monde y a droit. Tout le monde a droit à réussir, tu vois ? Vraiment, tout le monde a droit. Et quand je dis derrière réussir, on met ce qu'on veut. Hein. Ça peut être trouver sa place, ça peut être gagner beaucoup d'argent, ça peut être avoir une belle maison, j'en sais rien. Enfin, peu importe, avoir les meilleurs amis du monde, je sais pas. Vraiment, tu mets ce que tu veux derrière réussir. Mais ça me fait des fois mais tellement... pas mal, mais ça me m'attriste des fois vraiment très très fort quand je vois que les gens ont tout ce qu'il faut, tu vois, pour y arriver et qu'il manque mais juste des petites choses, quoi. Et que juste avec un petit peu d'encouragement ou un petit peu de soutien ou d'entraide, enfin, ou d'aide par rapport à justement, on en parle de ces petites actions à mettre en place, etc. Il pourrait vraiment y arriver, voilà, moi je me dis autant aider, non? Et puis ça fait partie d'un je sais pas, de l'impact que j'ai envie de mettre, tu vois, dans ce monde, de se dire, bah voilà, au moins j'aurais apporté ma petite pierre, ça, elle sera peut-être totalement infime par rapport à tout ce qu'il y a à faire, tu vois, mais ça fait sens, quoi, mm-hmm. tu vois. Et si j'ai envie que, et si demain on peut être quelqu'un, enfin, si on peut avoir, garder une idée, tiens, Marie Buron, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle aura peut-être fait, bouger ou faire réussir ou aider en tout cas aider à faire ouais. réussir bah X entrepreneur ou X enfin bah, entrepreneur et non genré tu vois et tant mieux moi je crois que tout le monde il y a une place pour tout le monde
trop chouette
et, c'est une question difficile hein
bah je vais pas te poser que des questions faciles et merde j'ai oublié ma question suivante oui bah je pense que beaucoup de personnes qui écoutent cet épisode doivent se demander ça comment t'arrives à gérer tout ça à gérer womanly à gérer le fait d'être une maman de 4 enfants le fait de gérer bah ta vie sportive aussi je sais que t'as une vie sociale assez remplie aussi parce qu'on se connaît bien comment t'arrives à gérer tout ça
Alors, d'abord, je pense que c'est de l'organisation. Ça, c'est clair et net. C'est de l'organisation. Par contre, quelque chose qui est important aussi, c'est que... Et c'est en fait, c'est il n'y a pas si longtemps, j'ai vraiment appris à dire non aussi. Et ça, si je peux donner un conseil, c'est... Il faut être égoïste. Et en fait... Être égoïste, c'est se respecter soi. C'est quelque chose qu'on entend aussi souvent, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. C'est se respecter soi et se respecter les autres. Et en fait, avant, j'acceptais, avant d'être entrepreneur, enfin, ou en tout cas jusqu'au début de l'entrepreneuriat, je disais rarement non, vraiment. Jusqu'au jour où, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais plus continuer comme ça et que, ce n'était pas bon. Enfin, ça n'allait pas. C'était pas possible de pouvoir, si je voulais entreprendre tout ce que je voulais entreprendre, que ce soit dans le privé ou dans le professionnel, je devais absolument me structurer et mettre des limites. Et donc, en fait, je pense que le fait de pouvoir se mettre des limites et de, deux choses. Le fait d'abord de pouvoir se mettre des limites et de pouvoir mettre des limites du coup aux autres et donc de pouvoir dire non, ça c'est essentiel. Et la deuxième chose que je voudrais ajouter aussi, c'est oui c'est ça, c'est le sens que pour lequel, ce pourquoi tu fais les choses, tu vois. Et en fait tout ce que je fais aujourd'hui, j'essaye hein, un maximum d'écouter mon intuition et de me dire mais est-ce que ça fait vraiment sens? Est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que qui je suis et avec ce que j'ai envie de développer, ce que j'ai envie pour mon entourage, etc. Et donc, je trouve que je suis beaucoup plus à l'écoute, tu vois, de moi-même que ce que je n'étais il y a encore 2 ans, tu vois. Et donc, c'est très important de, je pense, j'ai encore envie d'ajouter un truc, c'est de se dire aussi, et ça, c'est assez récent comme prise de conscience. C'est, en fait, tu vois, je trouve que en Europe, on doit encore être, on est encore dans cette mentalité de se dire, on doit être un peu bon dans tout, tu vois. Mm-hmm. Par rapport aux États-Unis, moi, j'ai fait un an aux États-Unis après Mareto, et puis il y a le MIT aussi. Aux États-Unis, tu es obligé, tu dois, je pense aussi être quand même en tout cas, t'en sortir un peu. Mais par contre, là où c'est fort différent, c'est que excelle dans ce que tu es bon. Mm-hmm. Tu vois? Performe dans ce que tu es bon. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de capitaliser dans ce dans quoi je suis bonne. Tu vois? Et j'ai pas peur de dire aujourd'hui, je m'enrichis en faisant ce que j'aime, tu vois. Ouais. Et donc, quand je dis je m'enrichis, c'est financièrement, mais c'est aussi psychologiquement, mmh. moralement et mentalement, etc. Donc, c'est vraiment se dire, je capitalise dans ce quoi je suis vraiment bien et ce qui me nourrit, tu vois. Et le reste, ben, j'essaie de déléguer, tu vois. Et en fait, je pense qu'au début, quand t'es entrepreneur, t'as pas le choix, t'es obligé de faire un peu tout. Et je pense que c'est aussi d'ailleurs une bonne chose parce que ça te permet de découvrir toutes les facettes, tu vois, et de savoir bah t'as mis aussi les mains dans le cambouis. Mmh. Et donc le jour où tu vas faire appel à quelqu'un pour s'occuper d'une partie de ton business, etc. Bah tu sais, tu l'as fait. Et donc c'est plus facile aussi de pouvoir après épauler la personne ou en tout cas la former et après bah aussi brainstormer avec elle, etc. Parce que t'auras vécu ce qu'elle qu'elle vit. Et donc, je pense qu'au début, c'est ça qui est bien. Quand tu montes ta boîte, je trouve que c'est essentiel de pouvoir avoir une vision et une expérience et un peu une expérience, j'ai envie de dire, mais pas une expertise, justement. Mm-hmm. Une expérience un peu dans tous les domaines d'activité de ta boîte. Mais par contre, à un moment, je crois qu'il est bien aussi de pouvoir s'entourer et de pouvoir justement capitaliser ce dans quoi on est, dans nos forces, quoi, tu vois. Mmh. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, pour pousser les choses et jusqu'au bout, c'est qu'aujourd'hui, je recherche vraiment à m'entourer. Mais j'ai mis du temps à le concrétiser, j'ai envie de dire. Mais voilà, aujourd'hui, est-ce que je recherche une nouvelle associée ou une nouvelle partenaire? Enfin, je ne sais pas très bien. Mais clairement, j'ai envie de Womanly. Si je veux que Womanly, par exemple, évolue, et si moi, j'ai envie aussi de pouvoir me consacrer un peu et développer un peu plus cette activité de business consultance, aujourd'hui, j'ai envie de lâcher toute une partie du day-to-day de Womanly pour pouvoir me consacrer au développement de la communauté et pouvoir passer encore plus de temps avec les gens, etc. Et de savoir comment je peux encore vraiment plus les porter pour qu'ils performent dans ce qu'ils souhaitent. Mais ça veut dire que pour ça, je dois lâcher tout ce dans quoi je ne suis pas, je n'ai plus une valeur ajoutée, tu vois. Et donc, je le dépose que aujourd'hui, pour l'instant, voilà, je suis à la recherche d'éventuellement, mais d'une personne, tu vois. Parce que quand je dis ça, on me dit, et donc, t'as un job description, etc. Pas du tout.
Ouais.
Pas du tout. Tu fais du business avec des gens. Et pas avec des job descriptions. Donc, ouais. Donc voilà.
Et ça te fait pas, ça te fait pas bizarre, entre guillemets, je trouve pas d'autres termes, mais de déléguer une partie comme ça de ton bébé, Womanly?
Ah, c'est bien que tu me dises ça. Parce que justement, je ne suis plus en accord avec, Womanly n'est plus mon bébé.
Ouais.
Tu vois? Et là, ça a été un gros shift, aussi, très important pour moi, où je me suis dit, mais en fait, si je veux que cette société évolue, si je veux que ma boîte donc évolue, mon entreprise évolue, ben je dois en fait m'en détacher complètement, tu vois. Et complètement, non, mm-hmm. pas complètement, parce que voilà, ça reste vraiment une partie de mon ADN, tu vois.
Ouais.
Mais par contre, ça n'est plus mon bébé. Je suis prête à partager avec, tu vois, en fonction de la personne, en fonction de ses attentes, etc. Je coupe le cordon, quoi.
Mm-hmm.
Et ça me va bien. Ça me va vraiment bien.
T'es fière de montrer cet exemple de création d'entreprise, même de connaissance de toi-même, de tout, la version que tu es aujourd'hui. T'es fière de la montrer comme ça à tes enfants?
Oui.
De leur montrer en fait que c'est possible, tu vois.
Oui. Oui, oui, je suis très, très fière je suis très, très fière de ça. Et je l'ai... Je sais qu'ils en sont très fiers aussi parce qu'ils me le disent régulièrement. Ah. Ouais, c'est vraiment très très chouette. Et je pense que c'est un chouette enseignement. Et du coup, j'ai envie de rebondir sur ce dont on parlait tout à l'heure par rapport au fait d'entreprendre et et avoir des enfants. Donc souvent, c'est un des freins. Je vais pas commencer maintenant parce que les enfants sont trop petits, etc. Je suis pas sûre que ce soit une bonne. C'est une excuse, ça. Vraiment. Je pense que les enfants sont juste extraordinaires. Quand on est juste clair avec eux et qu'on communique avec eux, ils sont tout à fait capables de comprendre qu'il y a des choses qui vont changer ou une dynamique qui va changer, une nouvelle organisation qui va se mettre en place. Mais ils sont tout à fait capables de la comprendre une fois que c'est expliqué et d'en faire un bénéfice aussi. Et franchement, au début, c'est vrai, il m'arrivait, quand j'étais salarié, je disais rarement non quand on allait, je vais pas faire des courses, ils sont pas très demandeurs, mais enfin voilà. Et puis il y a un moment où, c'était plus possible, quoi. Un euro qui sortait, c'était tellement, c'était l'euro qui sortait et l'euro, cet euro allait peut-être faire la différence. Et c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Je crois que les enfants sont en fait, à partir du moment où ils sont impliqués dans le projet aussi, et qui aujourd'hui les filles, donc mes deux plus grandes sont des jumelles, et il y en a une des deux, enfin même les deux m'ont déjà dit, maman, dès qu'on peut venir travailler comme jobiste pour toi, on vient, quoi, tu vois, est-ce qu'on peut pas venir t'aider, etc., quoi, tu vois, et donc ce sera pour l'année prochaine parce que là elles ont pas encore l'âge, mais Mais voilà, c'est bien la preuve que ils sont impliqués dans le projet. Mmh. Et je pense qu'en fait, c'est ça aussi l'important. C'est quand tu développes un projet entrepreneurial, c'est que ça fait partie. C'est un projet de vie. Hein. Y a rien à faire. Et donc, c'est une chance énorme et inouïe que j'ai, et ça je le sais, j'en suis tout à fait consciente, que d'avoir ce soutien à la maison est primordial. Je me fais des journées de fou, quoi. On dit toujours, quand on est indépendant, on va pouvoir gérer son temps comme on veut, etc. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais du coup, les journées où je suis pas là, je suis vraiment pas là, quoi. Mm-hmm. Hier, je suis rentrée super tard. Aujourd'hui, j'étais partie super tôt. Je les ai pas vus hier soir et je les ai pas vus ce matin. Ouais. Mais voilà, on sait pourquoi on le fait. Mm-hmm. Et donc, et c'est expliqué aussi. Et ça, c'est important, je trouve.
C'est chouette que tu parles de ça parce que c'est des retours que j'ai déjà eu par rapport au podcast, des auditeurs et auditrices qui me disaient « En fait, est-ce que les gens que t'interviews ont des enfants ?» Parce que ça paraît limite impossible quand t'as des enfants d'oser justement vivre de ta passion, quoi. Et là, tu montres que c'est possible.
Ah oui, mais complètement. Complètement les enfants. En fait, c'est la peur que nous avons, nous. Mmh. De se dire « Oh là là, je vais être... » qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi ?» Enfin, tu vois. Mais ça, je pense, ben voilà, je chacun fait l'éducation comme il peut et comme il veut. Mais je pense que ça, c'est pas du tout un mauvais exemple que de montrer que ça les rend autonomes aussi, tu vois. Je veux dire, c'est vrai, pendant le confinement, moi, je me souviens, j'avais des amis et amies qui avaient des enfants et qui me disaient « Mais oh là là, moi, j'en peux plus, je dois tout le temps m'en occuper, on doit faire des activités, des bricolages. » Mais en fait, moi pas. Vraiment, moi pas. Ils ont été extraordinaires. Ils se sont occupés entre eux, quoi. Et donc, et bien sûr, on était plus cool puisqu'ils étaient à la maison. Donc voilà, les journées étaient l'organisation des journées était différente. Mais à côté de ça, ils se sont occupés vraiment brillamment, quoi. Ça n'a pas été une charge du tout, quoi, tu vois. Et donc, nous, le confinement est plutôt bien passé. Mais je pense que ça fait partie aussi de l'éducation et que les enfants sont tout à fait capables de comprendre. Vraiment. Mais il faut, voilà, je pense qu'il faut vraiment, vraiment communiquer avec eux et être clair sur la situation et pas leur cacher, ça sert à rien. De toute façon, ils le sentent, donc...
On arrive tout doucement à la fin de cet épisode et je vais te poser, du coup, la dernière question, la question signature de Compose. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ?
Moi, j'ai envie de vraiment... j'ai envie de faire des grandes conférences. C'est dingue. Donc, il y a deux choses que j'aimerais vraiment faire. Et je pense que c'est dans le pipe, hein, mais c'est pas encore là aujourd'hui à l'ordre du jour assez crystal clear pour le mettre en place. Mais donc je suis déjà intervenu lors de conférences, voilà. Mais c'était pas comme ouais, moi je me vois bien, j'adorerais. En fait, j'adore la transmission. Mais vraiment, j'adore la transmission. Et donc, je me vois très, très bien comme un jour comme conférencière de manière plus récurrente et qui voyagerait, etc. pour faire passer le message que j'ai envie de faire passer à ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est j'aimerais bien écrire un bouquin. Mais ça, c'est trop... Par contre, ça, c'est trop tôt. Mm-hmm. Donc, je pense que ce sera, à mon avis, d'ici un an où j'ai encore envie de juste un peu avancer encore plus. Et justement, ce bouquin est... Pourquoi je pense que c'est pas encore mûr maintenant, c'est que je veux justement faire la corrélation entre le monde sportif et le monde entrepreneurial. Mmh. Mais aujourd'hui, je ne sais pas encore à qui j'ai envie de l'adresser, etc. Voilà, il est vraiment en train de se construire dans ma tête, mais avant qu'il soit couché sur le papier, j'ai encore mûrir.
Mais j'ai hâte de venir t'écouter et de te lire, du coup.
Bah, merci.
Merci beaucoup, Marie.
Un immense merci à toi, Julie.
Merci Marie d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. C'est le dernier de 2023, alors j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. Rendez-vous en janvier pour le prochain épisode.